France Musique. François Ier, prince de la Renaissance. François, duc d'Angoulême, a 20 ans et 4 mois quand on annonce le 1er janvier 1515 la mort du souverain régnant Louis XII. Ce dernier n'a pas de fils, donc pas d'héritier. Selon ses vœux, François, son cousin, épouse sa fille Claude de France en janvier 1514 et lui succède. Le 25 janvier 1515, François Ier est sacré en la cathédrale de Reims. À peine couronné, François Ier rejoint son armée de 300 000 hommes à Lyon. Son but est de reprendre le duché de Milan comme son prédécesseur Louis XII. En quelques jours, il lui fait franchir les Alpes au col de l'Arche, le plus escarpé. 10 000 cavaliers, 30 000 fantassins et 70 canons. C'est un exploit. Parvenu à Milan, François Ier n'accorde aucune confiance aux négociations menées par les Suisses et il installe ses troupes sur le champ de bataille de Marignan, situé à quelques kilomètres. Dès lors, les Suisses et les troupes du roi de France s'affrontent les 13 et 14 septembre 1515. Puis, c'est l'arrivée des Vénitiens, alliés de François Ier, qui, au cri de San Marco, attaque les Suisses par l'arrière. Les Français en profitent pour mettre l'armée ennemie en déroute, et c'est alors la fameuse victoire de Marignan. La victoire de Marignan est certes la première grande victoire du jeune roi. Mais son règne politique et militaire est sans cesse menacé par ses deux grands rivaux, l'empereur allemand et roi d'Espagne, Charles Quint, et le roi Henri VIII d'Angleterre. François Ier est d'abord le prince de la Renaissance. Ses prédécesseurs Charles VIII et Louis XII, malgré leurs nombreuses batailles d'Italie, n'ont pas saisi le mouvement artistique et culturel qui s'y développe. Ils en prennent toutefois la mesure et permettent ainsi au royaume de François Ier d'accueillir les splendeurs de la Renaissance. Le jeune souverain découvre avec émerveillement les œuvres d'art, non pas comme un roi, mais comme un homme. Doté d'une nature d'artiste, c'est son admiration intelligente qui suscite l'affection des maîtres italiens. Son éducation, très inspirée de la pensée italienne, donne au jeune François une sensibilité particulière à ce courant humaniste qui traverse toute l'Europe. La passion de sa mère Louise de Savoie pour l'art de la Renaissance italienne a elle aussi participé à l'amour du souverain pour ses artistes et leurs chefs-d'œuvre. Le jeune roi accueille de grands artistes italiens à la cour du Nouveau Louvre, puis au château de Fontainebleau. C'est ainsi que naît l'école de Fontainebleau. Y sont alors invités le peintre Andrea del Sarto, Fiorentino Rosso, qui devient le peintre officiel du roi, le Primatis, peintre, décorateur et architecte, ou Benvenuto Cellini, grand orfèvre et sculpteur florentin, invité à la cour lui aussi. Par cette politique d'invitation, François Ier inaugure le mécénat royal, repris par ses successeurs, notamment Louis XIV. C'est en accueillant le célèbre peintre Léonard de Vinci en 1516 que François Ier affirme sa volonté d'adapter l'art de la Renaissance à la France. Après un séjour de 4 années à Rome, le célèbre peintre, sculpteur, philosophe et inventeur visionnaire, Léonard de Vinci, perd son mécène Julien de Médicis. Ce sont les nouveaux jeunes et talentueux peintres qui composent les fresques de la chapelle Sixtine. Il s'appelle Michel-Ange et Raphaël. Alors, âgé de 64 ans, peut-être par désespoir, Léonard de Vinci roule doucement la toile de sa Joconde, la place dans ses malles et accepte l'invitation de François Ier à rejoindre sa cour. Le souverain voue pour le Florentin qu'il appelle mon père une véritable affection. À son arrivée, Léonard de Vinci est logé au château du Clos-Lucé en Touraine et reçoit alors de nombreuses missions, comme l'organisation des fêtes de la cour à Amboise, mais surtout la construction du château de Chambord. Ce sera le premier chantier du roi bâtisseur. Mais surtout, l'unique travail d'architecte du génial Léonard de Vinci. Il signe à jamais son œuvre avec un escalier magique. On le dit à double révolution. Si deux personnes empruntent ce même escalier, elles peuvent ne pas se croiser. C'est un mystère. Mais François Ier est aussi un amoureux des belles-lettres. On le dit le restaurateur des lettres et des arts, protecteur des humanistes et poète à ses heures. Grâce à l'invention de l'imprimerie, la lecture et l'étude des textes anciens par les érudits se diffusent et sont mises à l'honneur. Les princes d'Europe, comme les Médicis en Italie, puis François Ier en France, accueillent et protègent ces humanistes, qui sont de grands voyageurs. À la cour, Guillaume Budet, le plus ancien humaniste français, devient le bibliothécaire favori de François Ier à Fontainebleau. Il est chargé d'accroître la bibliothèque royale et d'en favoriser l'accès. Il encourage le souverain à créer, en 1529, le Collège des lecteurs royaux, à côté de la Sorbonne, principalement orienté vers les études religieuses. Des humanistes payés par le roi y enseignent alors l'hébreu, le grec, le latin, la médecine et les mathématiques. L'actuel Collège de France en est l'héritier. Puis, en 1539, le roi signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Dès lors, les écrits juridiques doivent être rédigés en français et non plus en latin. Parce que la poésie doit parler la langue du poète, un groupe de 7 poètes français protégés par le roi crée la Pléiade en 1553. Ronsard, Rabelais, Dubélé contribuent ainsi à développer la langue française que l'on juge vulgaire face au latin plus savant. Il faut alors donner à la langue française ses lettres de noblesse et écrire des textes de qualité, donc l'enrichir de vocabulaire et de syntaxe. Remercions ainsi Clément Marot, poète et valet de chambre de François Ier. Et oui, inspiré par la langue italienne, il introduit la fameuse règle du participe passé dans la langue française. Cela vous dit quelque chose ?
Enfance, voyez une leçon. Notre langue a cette façon que le terme qui va devant volontiers régit le suivant. Les vieux exemples je suivrai pour le mieux, car à dire vrai, il faut dire en termes parfaits. Dieu, en ce monde, nous a fait. Faut dire en paroles parfaites. Dieu, en ce monde, les a faites.
Des baptêmes aux obsèques, des entrées royales aux réceptions de princes étrangers, sur les champs de bataille, à la messe, comme dans les bals et autres divertissements, la musique est présente à la cour du roi François Ier. On aime y chanter, danser, d'autant que la cour est encore vagabonde. Deux chapelles assurent les cérémonies religieuses. Les musiciens de l'écurie participent au cérémonial royal, mais sont aussi indispensables aux fêtes, bals et festins. François Ier y introduit les violons. Alors, le caractère militaire de l'écurie devient plus festif. Et surtout, le nombre de musiciens augmente considérablement. Quant aux musiciens de la chambre, ils se consacrent à la musique d'intérieur, dans la chambre du roi, de la reine ou des princes. François Ier accorde autant d'attention et d'amour à la musique qu'à l'architecture, aux arts et aux lettres. Elle participe d'un certain art de vivre et il décide de réformer les institutions musicales de la cour. Pour cela, il s'entoure de très nombreux compositeurs et musiciens. Il les protège, les encourage, car ils participent eux aussi à son aventure humaniste et à l'éclat de son règne. François Ier est aussi un grand danseur, mais surtout un grand amoureux. Et un prince amoureux des lettres et des arts, n'est-il pas un immortel ?
Oh, À réécouter sur francemusique.fr.